France Inter, le 18-20.
On appelle ça le cortège de tête. Je ne vous parle pas des casseurs, je vous parle de tous ceux qui ne se sentent appartenir à aucune bannière, à ceux qui ne veulent pas défiler sous un drapeau, sous le drapeau d'un parti ou d'un syndicat. Et en tête de cortège, le 1er mai, pas seulement, mais le 1er mai, on l'a vu particulièrement, ils étaient presque 15 000, soit à peu près aussi nombreux que les syndicats et politiques qui étaient derrière. Alors oui, certains d'entre eux avaient décidé sciemment d'en découdre, mais il y a aussi des étudiants, des curieux, des sympathisants, il y a aussi les associations, reléguées en général en fin de cortège, mais cette fois-là plutôt devant. L'ambiance ici est plus revendicative que le cortège dit officiel et même ceux qui ne cassent pas sont plus radicalisés peut-être que les officiels ou que leurs aînés parce que peut-être qu'on parle bien aussi de génération. Les post-baby-boomers ne militent plus comme leurs parents, ne manifestent plus comme leurs parents. Les partis les intéressent moins ou pas, le vote parfois les intéresse moins ou pas aussi. Les syndicats ne font plus recette auprès d'eux et les formes de lutte sont également différentes puisque les fractures de la société sont différentes. Alors, eh bien, les formes de lutte également, l'associatif, les ONG, Nuit Debout, les zones à défendre. Parfois donc il y a de la violence et parfois non. On parle souvent de la gauche, mais est-ce qu'à droite, au final, les mouvements identitaires ou les manifs pour tous ne participent pas du même raisonnement, pas moins engagés, mais surtout plus encartés. Et vous, alors, quel militant êtes-vous? Quel activiste? Quel mode de contestation est le vôtre? C'est à vous de nous le dire.
Fabienne Synthèse. Le téléphone sonne.
Hélène, vous ouvrez le bal, c'est à vous. Soyez la bienvenue dans le téléphone sonne et on vous écoute.
Bonjour, j'ai 64 ans, je suis enseignante retraitée. J'ai jamais été encartée dans un quelconque parti. J'ai fait un petit peu de militantisme à Amnesty International quand je travaillais. Et depuis que je suis à la retraite et que j'ai un camping-car, eh bien, je navigue de réunion d'action en réunion d'action. Donc je fais partie d'ATTAC, qui s'est fait pas mal connaître en embêtant un peu BNP, en fauchant des chaises, en embêtant aussi Apple. Et pour l'instant, tous les procès ont été gagnés. D'ailleurs, il va y en avoir un autre le 7 juin à Carpentras pour une autre cheveux blancs comme moi, qui était aussi enseignante comme moi, mais elle était proviseure, elle a fauché des chaises. Et donc, Nicole Briand va passer en jugement le 7 juin à Carpentras.
Ok, on a noté la date.
Donc c'est pour les cheveux blancs. Mais que ce soit ATTAC ou les autres organisations dont je fais partie, Alternativa, Action non violente comme 21 ou des Amis de la Terre, ça va grosso modo de 20 à 80 ans. D'ailleurs, j'ai retrouvé trois de mes élèves. Et bon, dans toutes les actions, parce qu'on ne fait pas que défiler dans la rue. Bon, là, je suis allée à la fête à Macron. Et pareil, c'était très. Il y avait une amplitude d'âge assez importante. Mais dans les actions, eh bien, tout le monde y trouve son compte. Il y en a qui courent devant, puis il y en a qui courent plus, mais qui est d'une façon ou d'une autre.
Et Hélène, le choix de militer hors parti, en fait, alors vous dites visiblement ça fait longtemps, mais il vient d'où? Quelle est la raison? Est-ce que c'est que finalement on obtient moins de choses, selon vous, en militant à l'intérieur des partis ou des syndicats ou pas?
Moi, j'ai l'impression que les partis et les syndicats ont un programme auquel on doit se plier. Bon, on voit par exemple les députés de En Marche. De temps en temps, ils doivent quand même ravaler leurs mots et leurs salives parce que ils sont encartés pour limiter leur liberté d'expression. Là, en tant qu'associative, j'ai ma pleine et entière liberté d'expression. C'est-à-dire que si une action me va, j'y vais. Si elle ne me va pas, j'y vais pas. Mmh. Et à l'intérieur d'une action, il y a le choix. Il y a ceux qui sont en première ligne, qui vont au contact, toujours de façon non violente. Quand les gens de ce groupe-là, ANV COP 21, vont essayer de passer les policiers, ils y vont en douceur, enfin en douceur, pour ne pas abîmer les policiers, ils portent des boucliers en mousse, les militants, pour pas faire mal aux policiers, jamais de casque.
Merci
d'ailleurs, il y a un film qui s'appelle Irine Zina, le cri de la génération climat, qui montre ça très bien, qui tourne encore dans les salles et dans les associations.
Merci beaucoup.
Et on voit exactement comment ça se passe.
Merci Hélène pour cette entrée en matière et pour ce démarrage grâce à vous du téléphone sonne. Pour vous répondre, pour débattre avec nous ce soir autour de la table, Juan Branco, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes avocat de Jean-Luc Mélenchon notamment et de Julian Assange. Frédéric Savicky, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de Sciences Po à Paris, Panthéon-Sorbonne. Et Vincent Tibéri est au téléphone avec nous. Bonsoir Monsieur Tibéri.
Bonsoir.
Vous êtes professeur des universités associations Sciences Po Bordeaux. Et j'en profite pour dire que vous avez écrit Les citoyens qui viennent aux éditions PU. Frédéric, c'est avec qui je voudrais commencer avec vous. Est-ce que c'est une sorte de portrait type finalement? Alors c'est vrai qu'elle a 64 ans, on parlait de génération, on y viendra tout à l'heure, notre amie Hélène. Mais est-ce qu'on est un peu dans le portrait type d'une nouvelle forme de militantisme avec Hélène ou pas?
Ah, il y a plusieurs choses qui me semblent intéressantes dans la trajectoire d'Hélène. D'abord, c'est une jeune retraitée et on a beaucoup focalisé sur les jeunes, mais ce qu'on constate aujourd'hui dans les organisations militantes, quelles qu'elles soient, y compris d'ailleurs dans le syndicalisme, parce qu'il y a des retraités qui continuent ou qui se mettent à militer pour la défense des retraités dans les syndicats, c'est que au moment de la retraite, il y a quand même pas mal de gens qui... même s'ils étaient politisés, mais ils n'avaient pas d'engagement, se mettent effectivement au service de diverses causes. Donc, de ce point de vue-là, son cas est assez typique. Sous d'autres angles, il l'est un petit peu moins parce que Hélène est enseignante et on sait que le milieu enseignant, traditionnellement en France, et en particulier pour les générations qui sont les siennes, a été très propice effectivement à la syndicalisation, aussi à l'engagement dans les partis de gauche. Donc elle est un petit peu en quelque sorte en retard par rapport aux gens de sa génération. Mais on voit bien quand même à travers ce témoignage que ce n'est pas parce qu'on ne milite pas activement quand on est actif, c'est-à-dire au travail ou quand on est plus jeune, qu'on est voué à rester en quelque sorte passif toute sa vie. Il y a des cycles qui sont liés beaucoup effectivement aux conditions de disponibilité qu'offre la vie. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais désespérer en quelque sorte de sursauts militants qui peuvent dans son cas venir assez tard et qui se traduisent effectivement par un engagement très fort, puisqu'elle a plein de causes qui passionne Hélène et elle est prête, y compris à mettre son corps en quelque sorte au service de la défense de ses causes.
Juan Branco, moi ce que je constate aussi, alors pas à travers le témoignage d'Hélène, mais pas seulement, vous représentez par exemple Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise. Au final, la création de la France insoumise répondait d'une certaine façon aussi à ça, au fait qu'à l'intérieur même des partis, c'était plus compliqué. Y compris l'autre spectre, d'ailleurs, La République En Marche aussi, d'une certaine façon. C'était sortir de là. Est-ce que ça veut dire effectivement que pour ces militants-là, pour ces gens-là, selon vous, il ne peut exister de vrai militantisme, en tout cas nouveau, qu'en dehors des structures qui sont finalement trop vieilles et peut-être passées aujourd'hui, en fait?
Moi, je trouve que c'est une posture très saine et à laquelle j'adhère complètement, qui est en fait le refus de la position de l'homme de parti. C'est-à-dire quelqu'un qui va devoir porter une parole avec laquelle il ne va pas forcément être entièrement en accord et qui va mettre en primauté son exigence de vérité et de sincérité. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est absolument nécessaire et qui est peut-être permis beaucoup plus aujourd'hui par le déploiement des réseaux sociaux et des nouveaux moyens d'expression. C'est sa première chose. D'autre part, quand le système politique, mais aussi syndical, en fait, quand tous les relais qui permettaient de faire tenir la société n'ont, quand ils sont dans l'opposition, plus d'autres fonctions que d'éviter une érosion de la société, une érosion des droits, une érosion de la capacité à vivre ensemble, à avoir un sens commun, et qu'ils ne portent plus du tout un discours alternatif, une capacité à se projeter vers un avenir, vers un destin, vers une croyance, de façon générale. Évidemment, il y a une dislocation, une dissolution des appareils et la naissance d'alternatives qui vont ne pas du tout se fixer les mêmes limites. Et c'est ce qu'on a vu notamment le 1er mai avec le cortège de tête et les Black Blocs. C'est-à-dire qu'il y a une volonté, à un moment, de se réorganiser autrement, en dehors du système, parce que le système lui-même se rétrécit. Il est à chaque fois plus contraint, à chaque fois plus inhibé sur lui-même et à chaque fois moins capable de saisir l'ensemble du monde et ses évolutions.
Mais dans ces cas-là, ça veut dire qu'il faut effectivement être en dehors du système. Alors vous parlez des Black Blocs, il y en a d'autres qui sont peut-être moins violents que ceux-là. Où est-ce qu'on accompagne en fait ceux qui sont à l'intérieur du système, mais en les titillant, en essayant de faire en sorte qu'ils vont plus loin, en étant une espèce d'électron libre qui tourne autour?
Moi, la radicalité postulée des Black Blocs et leur violence, je la questionne fortement, dans le sens où c'est des personnes qui s'attaquent à des symboles, qui s'attaquent à des objets très limité, qui ne s'attaque pas à des individus, sauf cas exceptionnels comme les dernières pendant la loi travail, et qui cherche justement à canaliser cette violence et à la concentrer sur des points symboliques comme les McDonald's. Et donc là-dessus, je sais que c'est complètement inaudible dans l'espace public aujourd'hui, mais c'est pas forcément...
C'est surtout que ça rend inaudible les manifestants
absolument
derrière,
pas. Moi,
au final.
Je pense que quand on détruit un McDonald's, on est très audible, comme José Bové l'était il y a 20 ans. Et je sais que c'est pas dit dans l'espace public, mais je pense qu'il faut l'entendre. C'est-à-dire que quand il y a 1500 personnes qui se réunissent et qui décident collectivement, notamment d'aller vers ce symbole d'une société capitaliste qui exploite les animaux...
Attendez, parce que quand même, Juan Branco, on est plus audible, on est plus audible, c'est ça que je veux dire, quand on casse un McDo dans une manif du 1er mai que
quand on manifeste
lorsqu'on
le 1er mai avec
25 000 derrière un cortège syndical.
La preuve, c'est-à-dire qu'on voit très bien que parce que le pouvoir lui-même a théorisé une verticale et une autorité, un autoritarisme en fait tel qu'il fait qu'il y a un écrasement complet des syndicats, bah, le résultat c'est que des personnes vont chercher ailleurs une façon de se faire entendre. Ça c'est la responsabilité primordiale du chef de l'État et de son gouvernement.
Alors j'allais dire, attendez, c'est la faute du gouvernement, après on enchaînera évidemment, ou la faute aux syndicats en fait, qui répondent plus à un certain nombre de demandes.
Il y a un effondrement d'un système en fait, et là où Macron prétend faire naître un nouveau. Et là je ne porte pas une parole partisane encore une fois, parce que sur ce position, comme vous le notez, je suis assez en décalage avec celle de Jean-Luc Mélenchon et je pense de France Insoumise en général. Mais quand M. Macron dit qu'il porte un nouveau monde, non, il est en train de s'effondrer avec le monde ancien.
On peut quand même ajouter qu'il y a aussi une responsabilité entre guillemets des médias, puisque c'est quand même en recourant à des formes de violence, y compris symboliques, qu'on attire l'attention.
Bah,
c'est-à-dire les agriculteurs qui balancent du lisier dans les cours de préfecture depuis des années, ou les ouvriers qui menacent de faire exploser une usine qui ferme, alerte effectivement l'opinion et les médias de façon plus efficace qu'en manifestant passivement, il faut le dire. Effectivement, la violence est aussi suscitée par la logique de l'information, alors qu'il peut se retourner évidemment contre les protagonistes qui regrettent effectivement qu'une image négative ou péjorative soit donnée, mais c'est un registre d'action, de sensibilisation assez traditionnel et qui remonte en quelque sorte des passions, pourrait dire, de mobilisatrices du Moyen-Âge ou de la paysanne française jusqu'à aujourd'hui.
Et encore plus aujourd'hui, évidemment. Et effectivement, je ne suis pas naïve au point de penser que le Black Bloc notamment ne savent pas que lorsqu'ils font péter un McDo ou un bus ou n'importe quoi de ce genre, il y aura des caméras dessus et que c'est bien la chose qu'on verra tourner en boucle sur les caméras. Vincent Tibéri, vous vouliez intervenir. Je vous écoute, monsieur Tibéri.
Oui, je voulais juste revenir sur la figure du militant. Donc déjà, je ne sais pas si les syndicats font partie d'un système, mais en attendant, il faut quand même bien avoir en tête que les syndicats en France a toujours été quelque chose de finalement très très faible et très marginal. Et on sait quand on regarde les séries sur le long terme d'adhésion syndicale qu'il y a un déclin inexorable depuis les années 60. Ce qui est intéressant dans le cas de votre auditrice, c'est qu'elle nous raconte aussi des mouvements plus anciens. C'est-à-dire qu'effectivement, on en a fini de la figure du militant militaire. Le bon petit soldat, notamment, qu'on imaginait communiste, qui donnait sa vie au parti, qui a milité dans plein d'associations pour faire progresser la cause du parti, etc. Ça, c'est fini. Ce militant militaire, il est fini. Il a commencé à disparaître dans les années 70 avec l'émergence de ce que Touraine appelait les nouveaux mouvements sociaux. Et puis, ça, c'est allé en s'accentuant. C'est-à-dire que des gens comme Jacques Yon vont parler du militantisme post-it, c'est-à-dire des gens qui sont de moins en moins d'une organisation, mais de plus en plus d'une cause. Et qui, effectivement, comme le disait Frédéric Savicky, se mobilisent à des moments, selon des cycles, selon des causes qui leur parlent, et donc sont de plus en plus difficiles à capter, mais néanmoins sont aussi, et de plus en plus, mobilisables. Et là, c'est là où on retrouve effectivement la puissance d'Internet, la puissance des réseaux sociaux, comme capacité justement de faire de la mobilisation sans avoir même besoin de se mobiliser à travers une organisation.
Mais du coup, c'est plus difficile, on parle de ce fameux terme de convergence des luttes, là en ce moment beaucoup, quand on est militant post-it, comme vous dites, j'aime bien cette expression, Vincent Tibéri, c'est beaucoup plus difficile à fédérer, puisqu'on est attaché juste à une cause, donc du coup, se fédérer à une autre cause, est-ce que ça rend pas les choses encore plus compliquées ?
Oui, tout à fait, mais d'ailleurs c'est un peu ce qu'on voit en ce moment. Le problème en ce moment, et c'est peut-être le résultat de la stratégie du gouvernement, c'est d'avoir tapé sur différents fronts, d'avoir allumé différents fronts, et en face, il y a la difficulté pour un parti, pour une organisation, d'être capable de produire un contre-discours, et donc de pouvoir fédérer. Et donc on est dans un paradoxe où on n'a jamais eu autant de gens qui sont capables de se mobiliser, qui sont capables de pétitionner, manifester, de trouver des nouveaux modes d'action à travers Internet, et dans le même temps, l'incapacité quelque part de les faire converger parce qu'on revient au niveau de l'individu quelque part, ou en tout cas de ses réseaux affinitaires. Et donc il est beaucoup plus dur de monter en généralité quand on part sur cette base-là.
Christian, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Soyez le bienvenu, Christian, allez-y.
Oui, merci pour la qualité France Inter. Le militantisme est une notion d'amateurisme et on pourrait parler d'éducation religieuse ou encore de militantisme syndical qui est en train de monter d'ailleurs maintenant, 11%. Mais ma question porte sur le militantisme politique. Comment expliquer l'écart entre le fait que 78% des Français vont voter au premier tour de l'élection présidentielle alors que tous les partis confondus ensemble n'attirent que 1% des militants. Et un élément de réponse, pour ma part, c'est que le problème est moins dans l'amateurisme, dans le militantisme politique, dans le cadre politique, que dans le manque de professionnels de la politique. C'est-à-dire, il y a quelques fonctionnaires politiques, on peut penser à Emmanuel Macron, à Laurent Wauquiez, à Boris Vallaud, mais en réalité, on voit qu'il y a une grande instabilité quand les partis déménagent. Enfin, donc, dans le cadre donc, spécifiquement politique...
Attends, ils déménagent, pardon Christian, mais moi j'ai un peu l'impression qu'on voit les mêmes gens depuis très très longtemps. Donc la stabilité au niveau des noms et des gens, elle est quand même immense, non? Vous ne croyez pas?
Ce n'est pas mon avis. Hein.
D'accord. Bah écoutez, mais c'est comme vous voulez, Christian. Et merci pour votre question au téléphone. Sonne Juan Branco sur ce paradoxe que souligne Christian. 78% des gens effectivement qui votent, et puis effectivement des gens encartés réellement qui sont en chute libre là pour le coup, en chute catastrophique.
Mais moi, je pense qu'il y a une désaffection générale du sentiment politique, et on le voit aux élections intermédiaires en particulier, mais même y compris aux dernières présidentielles, où certes les chiffres de participation sont encore élevés, mais ont baissé et atteignent des niveaux historiquement bas. Je ne parle même pas des législatives, parce que de façon générale, on est face à une difficulté à penser ce qu'est le politique aujourd'hui. Et par ces sortes de contraintes en fait, qu'on s'est imposées au nom de discours qui sont louables sur le rapport à la paix, etc., au niveau européen, on a une incapacité à se mettre en mouvement à l'échelle nationale. Je prends l'exemple de la réforme de la SNCF. Le gouvernement, même en étant de très bonne volonté, aurait beaucoup de difficultés en fait, à donner raison au syndicat sur la dimension la plus importante et celle qui est le plus contestée, qui est l'ouverture à la concurrence. Pourquoi ? Parce qu'il y a une directive européenne qui a été défendue par un gouvernement précédent à l'échelle européenne qui est d'application. Donc au mieux, on pourrait la décaler. Or, le débat à ce moment-là n'a pas du tout existé dans l'espace public. C'est-à-dire à Bruxelles, entre les chefs d'État au sein du Conseil européen, puis après au Parlement, il y a eu un sorte de micro-débat qui n'a pas du tout été relayé, mais la décision a été prise sans qu'il n'y ait prise, justement, de la part de la population française sur ces enjeux. Et donc une fois qu'on est juste là à appliquer une décision qui a été prise auparavant, évidemment, il y a une perte de sens très forte parce que le gouvernement lui-même est en impuissance complète dans ce dossier. Or, du coup, il surjoue la fermeté, il surjoue la répression par rapport aux manifestations diverses pour essayer de se donner une forme d'apparence d'autorité, mais dans les faits, il est complètement incapable, y compris s'il le souhaitait, d'aller contre une direction qui, en effet, va contre l'orientation que la France a donnée à son histoire, qui est celle d'avoir un service public important, que ce soit dans les communications, dans les transports, etc.
Vincent Tibéri, pardon, je sais que vous vouliez intervenir loin au téléphone.
Ouais, je voulais revenir sur deux choses. D'abord, la question de la professionnalisation de la politique, mais peut-être que je laisserai aussi Frédéric Savy qui en parlait, parce que c'est quand même lui le spécialiste. Mais sur la question du vote, on est exactement dans la continuation de ce que je vous racontais tout à l'heure. C'est-à-dire que le vote, c'est un acte de participation que Ronan Ingelhardt appelait un acte dirigé par les élites. En fait, grosso modo, on demandait aux citoyens d'être à leur place, c'est-à-dire de voter à un moment donné en fonction de candidats qui ont été choisis par en haut, selon des règles choisies par en haut, pour des postes choisis par en haut, avec des enjeux choisis par en haut. Et donc cette manière de participer était une manière qui finalement était très dirigée par le haut et ne convient plus. Parce que quelque part, on impose aux citoyens une place qui est minoritaire, une place qui est minime, et le reste du temps, on n'attend pas de lui qu'il se mobilise. On attend éventuellement qu'il s'intéresse, mais ça s'arrête pas. Cette manière de voir, cette manière de concevoir le vote est une manière qui est de moins en moins en adéquation avec les citoyens qu'on a. C'est-à-dire qu'on est face à des gens qui sont de plus en plus éduqués, qui sont de plus en plus informés, qui sont de plus en plus capables de décrypter ce qu'on essaye de leur faire gober. Et donc à partir de là, le vote ne leur suffit plus. Et donc on voit monter l'abstention, mais l'abstention, on la voit surtout monter à la fois par en bas, c'est-à-dire qu'on voit du coup des citoyens ordinaires, des citoyens un peu diplômés, des citoyens, des ouvriers, etc., qui ne se déplacent plus parce qu'ils ne se sentent plus représentés. Et puis on a aussi des électeurs qui décident de ne plus voter parce que voter c'est un droit et c'est pas forcément un devoir, cette rhétorique de devoir leur parle plus. Ils préfèrent aller manifester, pétitionner, plutôt que voter.
Frédéric Savicky, le vote ne suffit plus, c'est ce que dit Vincent Tibéri, effectivement, en tout cas plus pour exprimer suffisamment ce qu'on a besoin d'exprimer.
Oui, enfin, si tant est qu'il n'ait jamais suffi. Alors, bien sûr, il y a eu des périodes historiques, en quelque sorte, où des coalitions électorales ont incarné des grands changements ou des espoirs de changement en 36, Front Populaire en 81, ou pour la droite française en 58 avec De Gaulle. Mais la France en particulier, mais pas seulement, a toujours accompagné ces changements de fortes mobilisations sociales, syndicales, associatives. On commémore 68, donc tout ça n'est pas neuf. Par contre, Ce qui effectivement est neuf, c'est le fait que les partis politiques ne sont plus connectés en quelque sorte à ces mobilisations, et enfin, sauf exception, ils essayent. Il y a des cas, Podemos en Espagne, c'est ce qu'essaye de faire d'une certaine façon la France Insoumise, avec un succès qu'on pourra apprécier sur la durée.
Et encore d'ailleurs, Podemos devient un mouvement après les manifestations finalement.
Podemos, c'est à la fois des acteurs qui sont fortement engagés en politique depuis longtemps, et puis effectivement un mouvement social, c'est la rencontre en quelque sorte entre ces deux univers qui fait le succès électoral de Podemos. C'est une réussite de ce point de vue-là. Et on n'a pas vraiment l'équivalent en France. On ne peut pas dire que d'un côté, par exemple, le mouvement Nuit Debout a vraiment été l'équivalent du mouvement de mai espagnol, et France Insoumise n'arrive pas totalement à connecter en quelque sorte ces deux. On l'a vu d'ailleurs dans la manifestation de l'autre jour. Juste sur les partis politiques, parce que c'est effectivement là le cœur du problème. Les partis dominants ont explosé lors de la dernière élection, et au fond, c'est une espèce d'aboutissement d'un long pourrissement. Les partis politiques français ont effectivement eu tendance à fonctionner en vase clos, à ne plus faire d'action et de réflexion pour élaborer des programmes par eux-mêmes, de faire de formation auprès de militants. Ils ont vécu de leur rente, et effectivement aujourd'hui tout est à réinventer, et pas seulement pour les partis nouveaux, mais aussi pour les partis anciens s'ils veulent survivre.
Et là, Juan Branco, pardon de vous dire ça, mais c'est la France Insoumise et la République En Marche, même combat, non? Parce que la manière dont la création s'est faite en dehors des partis, dans quelque chose de purement neuf, pour le coup, c'est quelque chose qui est en commun entre ces deux formations, non? Qu'est-ce que vous en dites?
Pardon, mais En Marche a juste appliqué un programme qui a été décidé par quelques énarques entre eux, dans un vase clos complet, qui reproduisait en fait un modèle politique qui est traditionnel en France, qui est celui de la technocratie issue des grandes écoles et de l'école normale d'administration.
Mais au moment où le mouvement naît, il naît en dehors des partis, comme la France Insoumise naît en dehors des partis.
Il naît au sein d'une élite politique et technocratique française qui est parisienne et qui est l'exact inverse. Encore une fois, c'est pas pour défendre la France Insoumise, mais pour le coup, la France Insoumise construit une plateforme programmatique à partir de consultations auprès de milliers de personnes et fait monter ses revendications dans l'espace public. Donc, considère que
l'idée, c'est pas de les mettre parce que vous soyez pas d'accord entre la République En Marche et la France Insoumise.
Non, mais même sur la méthode,
ça, on
est dans la reproduction d'un schéma dans la République En Marche, en fait, qui au-delà de l'apparence de transformation est sur une verticalité du pouvoir qui est très giscardienne, enfin qui ressemble vraiment à ce que la France fait depuis la création de la Ve République.
Pour moi, pour être juste, lorsque le mouvement En Marche est lancé, il y a effectivement des gens qui ont pu croire, à tort ou à raison, et avec plus ou moins d'enthousiasme, que ce mouvement incarnait une autre manière de faire de la politique. Et il y a des gens qui ont abandonné des partis anciens, qui sont venus à la politique à travers ça, qui espéraient effectivement, à travers la création de comités locaux, à travers aussi d'ailleurs la participation à des plateformes participatives, que naîtrait une nouvelle forme d'action politique. Le bilan qu'on peut en tirer aujourd'hui, effectivement, et ça c'est un bilan objectif, les statuts d'En Marche, la manière dont sont répartis les responsabilités en font effectivement un parti centralisé comme jamais, c'est-à-dire que y compris le groupe parlementaire est très caporalisé, tout se décide d'en haut, et je pense que ce phénomène de technocratisation que vous évoquiez n'était pas forcément en quelque sorte inscrit dans les gènes de ce mouvement, et que le rapport de force et puis surtout l'ampleur de la victoire d'Emmanuel Macron lui a conféré une légitimité qui lui a permis en quelque sorte d'étouffer ce parti naissant.
Alors il y a une chose moi qui me fascine, vous parliez de Podemos tout à l'heure. Podemos devient un mouvement, en fait je ne sais pas si on peut appeler ça un parti, mais devient un mouvement, et donc existe, le mouvement social existe parce que ce mouvement-là s'est créé. Nuit Debout, derrière Nuit Debout, il ne se crée rien. Comme après Occupy Wall Street, par exemple, il ne se crée rien. Et du coup, ça ne devient pas un parti. Est-ce qu'à un moment ou un autre, ou en tout cas un mouvement, on n'est pas obligé de repasser par les structures, par une forme de hiérarchisation de quelque chose pour pouvoir avancer, quitte à aller jusqu'au vote, quitte à créer quelque chose qui ensuite prend une ampleur avec des candidats, etc. Juan Branco.
Moi, je mettrais un petit bémol là-dessus. C'est quand même François Ruffin qui a lancé Nuit Debout quand même à la Bourse du Travail, et qui après s'est fait lire dans la France Insoumise et s'est monté un peu à côté en même temps dans la France Insoumise, quelque chose qui justement regroupe ses énergies. Mais par contre, sur Nuit Debout et sur les indignés en général, moi j'ai une vision beaucoup plus radicale. Pour moi, c'est en fait, ce mouvement est un mouvement de réajustement éthique, je m'explique. C'est-à-dire, on a beaucoup glosé sur le fait que les personnes qui ont participé à Nuit Debout, c'était des personnes qui appartenaient à des classes sociales relativement favorisées, relativement installées, au sein d'un espace économique qui est ultra dominant dans la mondialisation, c'est-à-dire on est quand même la 5e ou la 6e puissance mondiale, donc extrêmement riche. Et en même temps, ces personnes très formées, qui ont conscience que le monde est extrêmement injuste, est porteur d'injustice, et que leur position de dominant au sein de ce monde du coup, les faits porteurs de ces injustices. Et donc, il y a une sorte de malaise par rapport à cette situation. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est dominant, mais on se sent mal à l'aise par rapport à notre situation? On essaie de provoquer un réajustement éthique, mais qui va être fictionnel. Donc, on va occuper un lieu qui, en fait, est fait pour être occupé, une place publique. On va s'installer dedans. On ne va rien susciter, à part parler et se libérer de cette angoisse que l'on a à l'idée d'occuper cette position sociale. Et ensuite, on va rentrer chez soi le soir en se disant, ah, mais j'ai fait quelque chose qui a changé quelque chose pour moi. Il y a une immense hypocrisie dans le mouvement des indignés. L'indignation, c'est un vecteur, c'est un moyen. Quand on se sent indigné, c'est quelque chose qui doit amener à l'action politique. Si on se contente de rester indigné et de partager, de libérer cette indignation, eh bien, on rentre dans une satisfaction. On s'arrête. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est un mouvement qui est resté arrêté. Et donc, moi, j'ai une grande distance par rapport à ce mouvement auquel j'ai participé au début en me demandant aussi ce qu'on pouvait faire.
Si on rentre pas dans les clous de quelque chose qui est pas forcément un parti, effectivement, mais en tout cas, qui ressemble à une structure, ça marche pas.
Ou à une révolution.
À partir du moment où on présente des candidats à une élection, qu'on élabore un programme et qu'on entend peser sur les institutions, on devient un parti politique et c'est le choix qui a été fait par les indignés espagnols, pas d'ailleurs avec des tensions sur le mode d'organisation,
ça n'a pas été simple. Aujourd'hui encore non plus d'ailleurs.
Et aujourd'hui c'est toujours pas simple, mais c'est vrai que ce choix-là, c'était quelque chose qui était très largement, on pourrait dire, chez les gens qui ont participé le plus activement à Nuit Debout, quelque chose qui était assez rejeté. C'est-à-dire que alors là, on renvoie effectivement à une tradition politique. Il y a un contexte politique qui est très différent en Espagne qu'en France. Il y a effectivement un tel scepticisme vis-à-vis de la politique institutionnelle aujourd'hui chez beaucoup de gens que même la perspective de pouvoir fédérer une action et présenter des candidats est rejetée au profit de formes d'action plus directes avec les avantages et puis aussi évidemment tous les inconvénients que ça a, c'est-à-dire que ça n'a pas de débouché immédiat en tout cas, même si ça peut faire évoluer les consciences, si ça peut faire naître de nouveaux militants, mais effectivement sur le plan politique, on l'a vu là, les débouchés sont limités.
Bonsoir Jean-François.
Oui, bonsoir.
Vous êtes dans l'Essonne et on vous écoute, soyez le bienvenu.
Oui, oui. Bah, écoutez, j'écoutais tout ça avec intérêt, mais bon, je peux faire une petite critique. Moi, j'ai encore l'impression que c'est un discours, un débat de salon. On ne pense pas vraiment à ce qui se passe. Je suis dans le monde associatif. Je fais partie d'une association environnementale. Je fais partie d'une association des AMAP, c'est-à-dire... c'est une association pour le maintien d'une agriculture paysanne, et puis les circuits courts, et puis je fais aussi partie de combats pour l'environnement et sa protection, et tout ça c'est sur des actes sur le terrain, c'est pas dans les salons qu'on fait tout ça, c'est nous qui prenons la tête du mouvement et qui allons pour que ça soit mieux pour nos enfants, nos petits-enfants, etc. Personnellement, j'ai jamais fait partie d'aucun parti politique. J'estime que j'ai pas de chapelle, j'ai pas de cathédrale, j'ai rien du tout. J'ai une tête, j'écoute à droite, à gauche, ceci, cela, je fais une synthèse, une analyse et une synthèse, et à partir de là, je pense que je vais faire et comment je vais le faire. C'est pas pour autant que je vais pas aller voter, si je vais aller voter, puisque c'est un droit, mais je vais pas aller voter forcément pour un homme, je vais surtout voter pour un programme. Et jusqu'à présent, la dernière fois que j'ai voté pour le programme de M. Mélenchon. Je ne vote pas pour M. Mélenchon, je vote pour son programme.
Enfin, à un moment, il incarne le programme aussi. Enfin, voyez,
il incarne pas le programme. Il y a un programme, il y a des gens qui défendent ce programme, il y a des choses qui m'intéressent dedans, pas tout. Mais avant tout, je dois dire que, excusez-moi, il ne faut pas ramener ça d'un côté politique, mais de toute façon, de toujours, je n'ai eu ni Dieu ni maître. C'est-à-dire que je suis une identité, j'ai le droit de réfléchir, je réfléchis, et je fais et j'agis en conséquence de ce qui se passe et ce qui doit être fait pour pouvoir donner un peu de mieux à celui qui est à côté de moi.
Merci Jean-François pour ce témoignage. Vous vouliez réagir, Vincent Tibéri?
Oui, parce que je pense que c'est effectivement un témoignage extrêmement important. C'est-à-dire que pendant longtemps, je le reconnais moi-même en tant que spécialiste du vote, pendant longtemps, on s'est limité à la participation en ce qu'elle renvoyait aux politiques et aux politiques nationales. Or, effectivement, ce que disait votre auditeur est extrêmement important. Aujourd'hui, on a des gens qui, effectivement, militent avec des registres de militance, des registres d'action qui ne sont pas vus comme politiques pour l'instant, mais pourtant qui le sont forcément. C'est-à-dire qu'effectivement, le fait de manger bio, le fait de pratiquer la MAP, le fait d'acheter en circuit court, le fait de prendre son vélo plutôt que sa bagnole, le fait d'habiter en centre-ville plutôt que dans le périurbain, tout ça sont des actes qui, pour beaucoup de gens, sont effectivement pensés comme des actes politiques, au sens large du terme, et sont des actes qui obligent quelque part à repenser la société. Et c'est une société qui, du coup, se pense en dehors du cadre gouvernemental, ou en tout cas du cadre de la compétition pour le pouvoir. Donc c'est quelque chose de super important, et ce qui permet aussi d'ailleurs de revenir sur Nuit Debout. Quelque part, Nuit Debout n'a pas débouché sur un parti, certes, mais Mai 68 n'a mis du temps avant de déboucher pour une victoire politique, faut attendre 80, hein, finalement. Et donc, quelque part, il faut aussi bien voir que ça prendra du temps de créer un nouveau type de militant horizontal, plus participatif, plus inclusif, parce que on se frotte aux logiques organisationnelles, c'est-à-dire qu'il est plus facile de décider par en haut d'un programme. On se frotte aux logiques d'inclusion. Il faut aller chercher d'autres gens, ceux qui sont les plus loin, ceux qui sont pas Place de la République, mais qui sont à Trappes, qui sont dans les banlieues, etc.
Et c'était bien ça le souci à ce moment-là, d'ailleurs.
Compliqué.
Et c'était bien ça le souci à ce moment-là. Frédéric Savicky, moi, quand j'entends les gens qui nous appellent, je suis frappée par une chose. On parle surtout de mouvement de gauche, en fait. Mais est-ce que finalement, c'est pas la même logique que celle de la manif pour tous? Au final, les fameux identitaires qu'on retrouve, dans la montagne, en train d'essayer d'empêcher les migrants de passer. Est-ce que ça participe pas aussi, finalement, du même raisonnement? Ce militantisme-là, cette forme d'action-là, elle existe autant à droite qu'à gauche ou pas?
Alors, ce qu'on peut dire, c'est que la droite a emprunté progressivement à partir des années 80. Un moment important, ça a été les grandes manifestations pour la défense de l'école privée en 93. Les registres d'action qui étaient inventés à gauche. La manifestation, la pétition, l'action, pour dire sensationnelle, le militantisme de terrain. Parce que longtemps, effectivement, cette droite-là était représentée par des notables et faisait confiance à des porte-paroles, à des organisations partisanes, etc. Donc là, on est dans la continuité. Pourrait dire de cette progressive emprunt par des militants de droite, tradition catholique ou pas, de registre d'action emprunté à la gauche. Alors, et en même temps, on est dans une autre continuité quand même dans ce qui concerne en tout cas ce mouvement de la manif pour tous. C'est quand même le poids très structurant des milieux catholiques, c'est-à-dire que en France, et pas simplement à gauche, à gauche aussi, le catholicisme sous ses formes les plus variées est une matrice très importante d'acquisition de dispositions d'action vis-à-vis des autres. Alors évidemment, ça peut prendre des formes charitables, mais ça peut aussi prendre des formes très militantes. C'est-à-dire, quand on regarde les trajectoires de beaucoup d'acteurs politiques encore aujourd'hui, ça a compté cette socialisation religieuse. Donc là, il y a plutôt des effets à la fois, on pourrait dire, de continuité puis de progressive transformation. Et puis bien sûr, ces gens-là vivent dans la même société. Cette humeur anti-institutionnelle, critique, anti-autoritaire, on la retrouve aussi, effectivement, dans ce mouvement, par exemple, de la manif pour tous, où il y a eu une émancipation, par exemple, par rapport à l'attitude du clergé, des initiatives qui ont été prises contre, on pourrait dire, les autorités. Donc, ce problème, il est général, même si il faut quand même pas oublier que tout ça, cette humeur anti-autoritaire, elle se traduit chez d'autres gens par une nostalgie d'ordre. Les identitaires ou même certains militants du Front National ou d'extrême droite, ils aspirent aussi, pas forcément, effectivement, on pourrait dire, à ce qu'on leur laisse penser ce qu'ils veulent, mais ils aspirent quand même à avoir des cadres. Et c'est vrai que cette dissolution, en quelque sorte, des grands repères politiques, elle débouche aussi, dans certains cas, on pourrait dire, sur des attitudes assez nostalgiques et des gens qui aspirent effectivement à être, on pourrait dire, cadrés, à ce qu'on leur dise effectivement ce qu'il faut penser. Il y a une nostalgie en quelque sorte pour des certitudes. Et ça, ça n'a pas disparu. Donc on aurait tort en quelque sorte de brosser un portrait d'un militant espèce universel qui serait aujourd'hui quelqu'un libre, qui aspire à penser ce qu'il veut, qui refuse d'obéir.
Mais en même temps, il y a un cadre aussi, finalement, y compris dans les têtes de cortège, Juan Branco, il y a un discours, il y a une matrice.
Il y a quelque chose d'extrêmement structuré et d'intéressant. Alors nous, on a occupé par exemple l'école normale supérieure la semaine dernière. On s'est retrouvé avec 100 policiers et 4 rues bloquées autour de l'école parce qu'on était 80 à essayer de réfléchir et organiser des colloques au sein de l'école, notamment une grande majorité de normaliens ou d'anciens normaliens. Et on s'est retrouvé à une réaction complètement disproportionnée des forces de l'ordre qui nous donnait l'impression d'être assiégés. Un peu comme dans le film Nocturama de Bonello, dans lequel on n'entendait plus rien. C'est-à-dire qu'il y avait un silence tout autour de l'école, parce que, en effet, 100 policiers pour 80 normaliens qui essayaient d'organiser un colloque à l'intérieur de l'école. Et cette violence extraordinaire de la part du pouvoir, enfin, je veux dire, pendant 40 ans, il n'y a pas eu de police. qui est rentré dans des universités. C'est-à-dire qu'on a accepté, on accède maintenant avec une banalité, comme si c'était quelque chose de parfaitement normal qu'on fasse intervenir les forces de l'ordre face à des étudiants qui essaient de s'organiser pour réfléchir à une autre forme de société. Et donc pour créer des nouveaux cadres, c'est-à-dire pour essayer de penser autrement. Quand vous allez à Normal, vous essayez d'étudier la philo, la littérature, etc. C'est pour essayer de réfléchir au monde tel qu'il existe et de devancer les crises qui sont en train de s'imposer à nous, les unes après les autres, avec des politiques qui, excusez-moi, sont complètement larguées, complètement en dehors du rapport à la pensée, et qui du coup laissent les effondrements tomber sur leurs citoyens, les uns après les autres, sans les protéger.
Et peut-être sortir du cadre presque normatif, en fait, après Normal, qui est promis, en tout cas c'est ce qu'il disait.
Le directeur qui a annoncé le retour à la normale quand on a été évacué par les policiers.
Qui leur était promis. Marie, vous êtes la dernière. Promettez-moi d'être rapide et on vous écoute.
Non. Bah, écoutez,
Allô ? Allez-y, je vous écoute.
Oui, bon, moi je vais essayer d'être très concise. Je suis un petit peu chagrinée. Excusez-moi, je suis sur le Causse, en Lozère, et je suis en train de grimper avec mon téléphone porte.
Voilà.
Donc, oui, ce que je voulais dire, c'est que je suis chagrinée qu'on mette au banc les syndicats et les partis politiques. Moi, je suis militante communiste, au Parti communiste, je suis militante à la CGT, retraitée, je suis militante à ATTAC, je suis militante au Secours populaire, je suis militante dans un tas d'organisations qui font que tous ces gens, on rencontre un tas de gens qui militent pour des causes ou pour un programme. Je suis essoufflée, je ne vais pas pouvoir continuer.
Non, mais voilà. C'est bien, ça doit être très beau autour de vous, par ailleurs.
Ce que je voulais dire, c'est que moi, je suis un petit peu déçue. Enfin, les partis politiques ont leur rôle à jouer. Alors, bien sûr, j'ai donné ma couleur. Moi, le mien, je considère, même s'il est déconsidéré par beaucoup de gens, j'habite dans une petite ville de Lyon, de la région lyonnaise, où on milite. On va sur les marchés, on discute avec les gens, des programmes, de ce qui se passe dans la société, etc. À ATTAC, on se bat contre la financiarisation, et à ATTAC, on rencontre des gens qui ne sont pas communistes, mais qui sont autre chose, mais qui se battent contre certaines choses. Vous voyez ce que je veux dire ?
On voit très bien. Ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain, Marie, c'est ce que vous êtes en train de nous...
Les syndicats et les partis politiques sont à jeter aux orties, c'est pas vrai.
Voilà,
on est organisés quand même. Voilà.
Marie, on a compris ce que vous nous dites. Passez une belle promenade. Merci beaucoup. Ce sera juste le mot de la fin, Frédéric Savicky. Effectivement, on jette pas le bébé avec l'eau du bain. Il reste des partis, il reste des syndicats.
J'espère que j'ai pas laissé à croire ça. Bien évidemment, moi je pense qu'il y a un vrai problème à inventer de nouvelles formes d'organisation partisane, mais qu'on ne peut effectivement mobiliser des causes variées, des militants qui ont des aspirations diverses dans un projet de société, que s'il y a une organisation puissante qui laisse la liberté à chacun, mais qui effectivement propose un programme politique et d'emmener un électorat large. Sinon, effectivement, sans parti politique, ce sera des luttes sporadiques, isolées, qui n'auront pas d'effet de long terme.
Merci beaucoup, merci pour toutes vos questions, merci de votre présence et portez-vous bien.